Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes de Radio Campus Lille et vous écoutez le Villeneuve Mag, l'émission que vous retrouverez chaque mercredi lors de ce mois de juin et qui traite de l'actualité de la ville de Villeneuve-d'Ascq et ses environs. Aujourd'hui, dans votre magazine, nous vous proposons deux reportages sur des événements qui se dérouleront à Villeneuve-d'Ascq ce week-end. Une semaine qui s'annonce sportive avec tout d'abord une journée d'initiation au handball pour les enfants avec le club du Lille Métropole Handball Club Villeneuve-d'Ascq, mais aussi avec une course solidaire en soutien à l'association Extraordinaire. Commençons ce magazine avec du handball, car ce samedi, une journée d'initiation au handball pour les enfants avec le club du Lille Métropole Handball Club Villeneuve-d'Ascq aura lieu. Il ne s'agit pas d'une première fois pour le club actuellement en 3e division française qui cherche, lors de chacun de ces événements, à donner l'envie pour les plus jeunes de se lancer dans le handball. Pour discuter plus en profondeur de cela, nous nous sommes rendus à la salle Marcel Cerdan qui accueillera cette journée pour y rencontrer Philippe Delecourt, le président du club, afin de découvrir davantage la politique du club concernant les jeunes du club, mais aussi pour discuter d'une certaine féminisation de ce sport. Enfin, nous avons aussi pu discuter des potentielles problématiques et enjeux qui peuvent toucher le club dans l'organisation de ces journées. Bonjour Monsieur Philippe Delecourt. On est ici à la salle Marcel Cerdan car ce samedi 14 juin, vous réalisez une journée d'initiation au handball pour les jeunes. Et la question, c'est un peu, quel est l'objectif derrière cette journée?
L'objectif de cette journée, c'est de faire découvrir aux jeunes le handball. On le fait déjà dans les écoles un peu, mais c'est surtout de les faire aussi découvrir. Et c'est surtout, avant tout, parce que les places sont chères. On n'a pas énormément de places, puisque la problématique d'une salle, on a trois salles sur la mairie de Villeneuve. On a ici Marcel Cerdan, qui est notre bateau, notre vaisseau mère, et après on a deux autres salles qui sont la housse et une autre salle sur la cousinerie qui est Molière, on a salle Molière. Donc on travaille sur trois salles. On a plus de 500 gamins ici, on a 480 gamins. On est premier club des Hauts-de-France, jusque Paris. On est même au-delà de Dunkerque, c'est-à-dire qu'on dépasse Dunkerque. On est premier club des Hauts-de-France en matière de licenciés. Donc la problématique, c'est les créneaux. Parce qu'on ne peut pas offrir à des jeunes, par exemple, il y a quand même l'école. Là, la salle est vide parce qu'il n'y a pas de... Les gamins sont en classe. Donc ça démarre vers 17h, 17h30, mais on ne peut pas aller au-delà de 23h. Après, ce n'est pas possible. Donc comme c'est des séances qui durent 1h30, donc là, on fait une journée d'initiation pour justement sélectionner les gamins qui ont vraiment l'envie, quoi, qui ne vont pas arrêter en cours de saison. Voilà. Mais on est avant tout là pour faire découvrir le sport. Et c'est un sport collectif. Hein, donc ça, voilà.
Et justement, vous faites des journées d'initiation depuis... Enfin, vous en faites plusieurs. Est-ce que vous percevez une évolution dans l'attirance ou dans l'intérêt des jeunes pour ce sport qui est le handball, justement?
Alors, aujourd'hui, le handball se féminise. On est vers une féminisation assez importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un sport masculin, c'est un sport avec d'énormes valeurs, des valeurs humaines, c'est un sport collectif, mais aujourd'hui on est en féminisation, c'est-à-dire que aujourd'hui on se rend compte que quand on voit par exemple sur la région, vous avez l'homme qui joue en D2, vous avez Saint-Bravenois qui vient de descendre, qui était en D1, qui descend en D2, et vous avez Saint-Amand qui joue sur le haut niveau. Donc sur le haut niveau, on a quasiment trois clubs, quoi. On est vraiment sur une partie de sport féminin qui est important. Nous ici, on est en N1, National 1, et après on a N1, la N1 qui est sur Dunkerque, qui est sur Hasbrouck, pardon, et après on a la D1 qui est sur Dunkerque. Voilà. Aujourd'hui, donc, on essaie de faire découvrir. Il y a l'après-JO aussi. Hein. Il y a eu les Jeux Olympiques l'année dernière qui ont aussi... l'année dernière, on a pris 13 ou 15% de plus. Mais, je répète, c'est la formation des encadrants, parce que ça, c'est très important. On peut pas... Voilà. C'est un sport collectif, mais avec des stratégies, des... Donc, c'est pas un sport où on fait que du physique. Il y a de la stratégie... Il y a comment se placer, il y a comment... c'est un sport très stratège. Donc il faut des compétences au niveau formation. Donc ici, l'année dernière, nous, on a mis quasiment 110 000 euros dans la formation de nos alternants. On a 5 alternants ici. On a mis quasiment 110 000 euros dans la formation des jeunes pour justement offrir à nos équipes et à nos gamins, des gens avec des compétences. Et justement, après, reformer les entraîneurs qui étaient déjà en place. Mais il y a deux facteurs, les créneaux de salle et les entraîneurs, les encadrants.
Vous parlez justement d'une féminisation du handball. Est-ce que c'est vraiment spécialisé sur le handball ou c'est plus sur le sport en global que la féminisation augmente au fil des années ?
Je pense que la féminisation, aujourd'hui, elle avait beaucoup de retard. On est en train de rattraper le retard. Et quand on observe un peu autour de nous, on a ici à Villeneuve le rugby féminin qui joue sur le haut niveau. On a le SBVE qui joue au basket qui est sur le haut niveau. Donc c'est deux sports féminins, quoi. Donc aujourd'hui, oui, je pense qu'on est en train de rattraper le temps perdu. Et il y a un décalage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le féminin est bien en place et le masculin court derrière, quoi. Mais aujourd'hui, sur le haut niveau, nous, sur Villeneuve, on voit bien que le féminin est sur le haut niveau.
Et quels sont les grands défis, s'il y en a, auxquels vous êtes confrontés pour attirer des nouveaux licenciés chaque année ?
Alors, ce n'est pas le défi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, je reviens sur ce que je disais, la formation et les encadrants et les créneaux de salle. Donc, on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on a en capacité. Là, c'est pour ça qu'il faudra vraiment qu'on regarde un petit peu, parce qu'on est vraiment, nous, ici, presque au taquet. On a trois équipes par tranche d'âge, hein, puisqu'on a du baby, du mini-hand, et après, on passe moins de 11, moins de 13, moins de 15, moins de 17, moins de 18, et après, on passe en senior. Donc, sur ces créneaux-là, on est quasiment à trois équipes partout. Là, on ouvre, nous, à partir de on a ouvert ici là, la féminisation, c'est-à-dire qu'on va faire du 11, du 13, du 15 et du 17 en féminine. Chose qu'avant, on avait une entente sur d'autres villes où on allait sur l'homme, où on envoyait les filles sur l'homme. Et là, il y a une volonté municipale et des élus, des adjoints de garder les féminines et de garder la féminisation ici sur Villeneuve. Donc là, on a ouvert et on commence à ouvrir aux filles. Voilà.
Et dans la formation, lorsque vous recrutez des nouveaux licenciés, dans la formation, comment vous les accompagnez au fil des jours, que ce soit sur le terrain, mais aussi hors du terrain, etc.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le handball, ça s'apprend, donc il y a les règles. Donc nous, on a déjà ici une école d'arbitrage, hein, c'est-à-dire que chaque club sportif est obligé d'avoir ses arbitres. Donc on a nos jeunes avec Joël, qui est un très très ancien du club, qui lui gère toute la partie arbitrage, et les jeunes sur la partie arbitrage. Et après, l'accompagnement, il est fait par la Ligue, le comité, pour former les alternants et former aussi également les entraîneurs.
Et on voit, justement, vous parlez de la féminisation du handball, on voit qu'il y a quand même une certaine attirance quand même pour le handball en France. Est-ce que vous, justement, jugez que c'est un sport majeur ?
Alors, je dirais oui et non, c'est-à-dire que c'était un sport majeur, mais le problème, c'est que l'équipe de France masculine n'a pas brillé comme elle devait briller. Hein, donc là, on a eu les championnats d'Europe, hein, il y a très peu de temps. Bon, aujourd'hui, on parle de Karabatic, enfin voilà, on parle quand même du handball, mais on a du mal sur après le reste, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'équipe de France, après il y a le championnat de D1, et après il y a tout derrière. Et nous, on est sur un championnat où quasiment, là, on est en Ligue 3, hein, on est en National 3 quasiment. On est en N1, mais c'est quasiment une troisième division. Et là, on a du mal à faire rêver, quoi. Donc, et on est confronté sur les poules de l'Est. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, les poules sur l'Est, hein, comme on a Molsheim, Fauchevillers, on a des équipes qui sont sur le bassin de l'Est, hein, puisqu'on joue quasiment, nous, la Ligue, on joue quasiment par là. On a été tiré au sort l'année dernière, donc on a joué quasiment la poule de l'Est. Et là, il y a des gros budgets. Il y a des gros budgets, on a des budgets plus importants. Nous, on a du mal à attirer des partenaires privés, quoi, hein, des sponsors. Alors, je redisais tout à l'heure, hein, on a quand même des gros aspirateurs, hein, le rugby. Ici, sur la métropole, il y a quand même, vous avez le choix, il y a de la concurrence, hein, entre le rugby féminin, le rugby masculin, avec l'OMR à Villeneuve, les filles du Lille Métropole Rugby à Villeneuve, le MRCV, vous avez après le SBVA. Voilà, donc Aujourd'hui, je pense qu'il nous manque aussi une arène. Ici, sur la métropole, il nous manque une arène, une salle de spectacle où, qui servirait en même temps, où on pourrait retrouver le basket et le hand, comme vous trouvez, par exemple, sur Montpellier, comme vous retrouvez sur Lyon, hein, des arénas qui sont où ils ont des deux clubs résidents. Donc là, je pense que c'est la prochaine étape.
Justement, là, vous faites, vous faisiez référence aux équipes de France. Vous avez fait aussi référence auparavant avec les Jeux Olympiques. À quel point les résultats des personnes qu'on voit à la télé lors des grands événements influent sur la volonté des jeunes de se lancer dans ce sport?
Ouais, parce qu'il faut rêver, ils prennent en star, il faut rêver. Hein. Aujourd'hui, c'est comme le foot hein, avec Mbappé, où aujourd'hui, ça fait rêver les gamins. Aujourd'hui, nous ici, c'est quand même comme dans tout sport collectif. Hein. Il faut savoir que au niveau des sports collectifs, aujourd'hui, on fait de la transmission, on fait du vivre ensemble, on fait du collectif. Puis pendant que les gamins sont là, ils ne sont pas devant un écran, ou ils ne sont pas devant leur téléphone, ou ils ne sont pas à se masser. Donc aujourd'hui, je pense que le sport collectif, il est très très important dans la vie sociale d'un territoire. Hein, je pense qu'on parle beaucoup, on a eu les frères Martin avec le tennis de table, ça a fait un peu rêver. Mais le sport collectif, vous savez, quand vous avez des gamins qui vont aller jouer à Dunkerque, à Saint-Paul-sur-Mer, à Fourmies, le soir avant, on leur crée de l'adrénaline, quoi. Hein. On crée du championnat, ils sont heureux. Et puis, ils apprennent surtout une vie en collectivité, ce qui est très important. Et puis, on leur donne de la rigueur parce qu'il faut qu'ils soient là à telle heure. Donc voilà. Je pense que aujourd'hui, dans ces sports comme je répète, le sport collectif, on est là pour transmettre de la valeur et du vivre ensemble.
Et en restant sur justement ces jeunes licenciés, on a vu avant les Jeux Olympiques, lors des années qui ont précédé les Jeux Olympiques de Paris, une volonté du gouvernement et des ministres, etc., de mettre vraiment en avant le sport à l'école avec une pratique beaucoup plus régulière du sport à l'école. À quel point le sport à l'école, le PS, peut permettre justement d'introduire les élèves au handball et ensuite de venir être licencié ici?
Alors nous déjà, avec la ville de Vinodesk, la ville de Vinodesk est une ville très sportive. Hein, je pense que c'est une des plus grandes villes de la métropole. Hein, l'île est sur le tourisme et la culture, et Vinodesk est vraiment ancrée dans le sport. Hein, on a vraiment un maire et un élu qui a tiré ce phénomène de sport. D'ailleurs, il aime à dire que il n'y a pas eu d'incendie, il n'y a pas eu d'émeute quand il y a eu les émeutes de l'assassinat quand il y a eu le problème avec le gamin là, et même pour les lois de retraite, quand il y a eu ces émeutes, donc il n'y a rien eu. Donc ça montre bien que aujourd'hui, quand on transmet, quand on est dans la ville, quand on fait du sport collectif, on transmet des valeurs. Après, les engouements, oui, ils sont là. C'est-à-dire que les jeunes ont envie de faire du sport. Ils ont envie. Donc, beaucoup de jeunes ont envie, mais après, il faut leur donner toujours envie. Il faut toujours les mettre dans la vie, dans le challenge, parce qu'ils ont besoin d'un challenge. Il faut les challenger. Donc, ils ont besoin de challenge, ils ont besoin de performer. Donc ça, parce qu'ils peuvent s'arrêter en cours de saison, si on ne les fait pas performer. Si on leur donne pas des... Voilà, si on leur donne pas... C'est pas une carotte, mais il faut les faire performer aujourd'hui. Donc, et pour les faire performer, il faut les faire rêver. Donc ça, c'est le premier point. Après, en ce qui s'agit du gouvernement, je vais pas me faire de copains, mais vous le savez tout comme moi, le gouvernement a supprimé 30% du budget du ministère des Sports. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Enfin, on a du mal à... Aujourd'hui, la région... Malgré qu'elle est bien présente, la région est présente, va supprimer, nous retire 10% de nos aides pour des restrictions budgétaires, parce que l'État lui impose une restriction budgétaire. Donc aujourd'hui, de taper sur le sport, je ne sais pas si c'est vraiment. S'il faut faire des canons ou s'il faut former des gamins. Voilà, ça c'est ma philosophie. Mais aujourd'hui, oui, non, moi ce que j'ai beaucoup de regrets, c'est qu'une année après les Jeux Olympiques, on tape sur le ministère des Sports.
Merci à Philippe Delecourt pour cet entretien et d'avoir répondu aux questions de Radio Campus Lille. Mais avant de passer à la suite, voici un petit interlude musical avec le morceau Puddle of Me de Saya Gray.
there's a puddle of me at your feet. Isn't that what you needed of me? You know how obsessed I can get with your needle and thread pulling in and out of me. You know there's a puddle of me at your feet. Isn't that what you needed of me? You know how obsessed I can get.
Après le handball, place à la course à pied, car ce dimanche, une course dans laquelle la solidarité sera mise au premier plan aura lieu à Villeneuve-d'Ascq. Cette dernière, appelée l'Exaltante, est organisée pour la cinquième fois par l'Association Extraordinaire, une association fondée en 2006 et qui accompagne les familles d'enfants qui sont touchés par un syndrome génétique maladie rare et qui ont pour caractéristique des troubles du neurodéveloppement liés au chromosome X. Camille Stoven, référente nationale de l'association et mère d'une fille atteinte du syndrome DDX3X, a pu nous expliquer les détails de ces syndromes, des thérapies et traitements liés à celle-ci, mais encore de l'accompagnement offert aux familles rejoignant l'association. Bonjour Camille Stoven, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Extraordinaire ?
Oui, bonjour. Effectivement, nous, on est parents d'une jeune fille en situation de handicap et on a rejoint l'association Extraordinaire, qui est une association nationale qui vient en aide aux patients et aux familles qui sont touchés par un syndrome génétique maladie rare lié au chromosome X.
Pouvez-vous nous décrire ces troubles liés au chromosome X et ce que vivent les personnes atteintes de ces maladies ?
Oui, alors il s'agit de troubles neurodéveloppementaux liés à une mutation accidentelle d'un gène porté par le chromosome X. En général, ça engendre une déficience intellectuelle, des troubles du comportement, parfois un syndrome épileptique, des retards de langage, des troubles moteurs, troubles praxiques, et parfois d'autres difficultés comme des cécités visuelles ou des troubles psychiques.
Est-ce qu'il existe des traitements ou des thérapies spécifiques contre cette maladie et quels sont les défis médicaux actuels?
Alors, les syndromes génétiques liés au chromosome X sont des syndromes génétiques comme il pourrait y en avoir sur d'autres paires de chromosomes. Sont des mutations accidentelles. Pour certains syndromes, il y a des thérapies géniques qui sont en cours avec des candidats médicaments, des laboratoires privés ou des laboratoires subventionnés par l'État qui peuvent faire des recherches sur des thérapies géniques. Nous, notre fille, elle est porteuse du syndrome DDX3X. En fait, la force de l'association extraordinaire, c'est d'être une association plurisyndromique, c'est-à-dire qu'elle réunit plusieurs syndromes génétiques maladies rares liés au chromosome X qui plaident pour des troubles neurodéveloppementaux, mais qui n'ont pas leur propre association, comme il pourrait y avoir l'association X fragile. Le syndrome X fragile étant plus fréquemment représenté et à une occurrence plus élevée, ils ont leur propre association de représentation et leur propre association de famille. La particularité de l'association extraordinaire et sa force, c'est de représenter plusieurs syndromes et de réunir tous ces syndromes génétiques maladies rares. Le syndrome DDX3X dont est porteuse notre fille est l'un de ces syndromes, et donc moi je suis référente nationale pour l'association au nom de ce syndrome-là. Et donc on peut avoir effectivement des protocoles de recherche transversaux qui vont concerner tous les syndromes, ou des protocoles de recherche et des protocoles de diagnostic propres à un seul syndrome.
Et justement, comment vous accompagnez les membres de l'association ?
Alors, l'association extraordinaire, elle a plusieurs vocations. Elle a la vocation, effectivement, de rassembler et de réunir les familles et de venir à leur soutien en proposant des événements et des occasions de rencontres, comme ce sera le cas dimanche avec l'Exaltante, comme ça a été le cas le week-end dernier, le week-end de l'Ascension, avec le week-end biannuel des familles extraordinaires, où on invite tous nos adhérents à se rencontrer et à venir partager un moment de convivialité ensemble. La force de l'association extraordinaire aussi, c'est d'être en contact avec les centres de recherche et les centres experts pour mobiliser les médecins dans la recherche diagnostique et dans la recherche thérapeutique. On a aussi pour vocation d'organiser des symposiums ou des conférences pour susciter l'émulation et faire un peu état de la recherche et des avancées thérapeutiques. On a aussi pas mal de contacts avec des centres recherche et des centres expertise pour rédiger des protocoles de recherche, rédiger des grilles d'observation, mobiliser des cohortes de patients pour améliorer la recherche et promouvoir cette recherche diagnostique avec les centres experts. On est en rapport avec les filières nationales et internationales comme la filière déficience, la filière handi-rare ou le réseau Itaca, qui est un réseau européen sur les maladies rares et les maladies génétiques. Donc voilà, on intervient dans le soutien aux familles, l'accompagnement des patients, mais également dans les domaines de la recherche et du discours médical, la rédaction aussi de protocoles ou la rédaction de cartes d'urgence pour améliorer la prise en soin des patients.
Et est-ce qu'on peut quantifier à peu près le nombre de personnes qui sont membres de l'association, qui sont suivies, qui sont accompagnées par l'association ?
Oui, aujourd'hui, on accompagne 250 familles adhérentes et on a une chargée de recherche, une salariée de l'association qui est en contact justement avec tous les centres d'expertise maladies rares pour faire connaître l'association et inviter les généticiens ou les médecins qui sont en contact avec les patients et les familles, les aider à se rapprocher de l'association pour avoir des contacts avec d'autres familles et puis surtout des contacts avec les médecins.
Et donc au fil des années, depuis la création de l'association, comment ça a évolué pour elle Qu'est-ce que vous proposez en plus, etc.
Alors effectivement, l'association extraordinaire, elle a été créée en 2006 par quatre familles, toutes quatre concernées par des syndromes génétiques, maladies rares. Aujourd'hui, on en est à 250 adhérents. On va fêter nos 20 ans l'année prochaine. Cette année, par exemple, se crée au sein de l'association une nouvelle commission pour les syndromes isolés, les syndromes qu'on appelle orphelins, qui ne sont aujourd'hui représentés que par une seule famille ou qui ne concernent qu'une seule famille dans l'association, pour leur permettre d'être en contact avec d'autres familles qui auraient la même symptomatologie et les mêmes préoccupations au quotidien. On a décidé de créer cette commission des maladies orphelines. Voilà, l'association extraordinaire grandit et puis se renouvelle chaque année par la force de proposition de ses adhérents bénévoles et par les partenariats qui peuvent se faire avec les centres d'expertise maladies rares et avec les filières nationales sur les maladies rares. Ouais.
Et justement, concernant le nom de cette association extraordinaire, on voit le jeu de mots avec le chromosome X justement au début du mot. Pourquoi ce nom et en quoi les membres ou les personnes touchées par ces maladies sont extraordinaires, justement.
Ouais. Alors effectivement, le nom a été bien trouvé parce qu'on a le logo du chromosome X en initiale du mot. Et effectivement, on parle de personnes extraordinaires parce que elles sont hors de l'ordinaire, hors du commun, hors de la norme. Et ce sont aussi des patients extraordinaires et des enfants extraordinaires parce qu'en fait, c'est des rayons de soleil, c'est des enfants qui sont, enfin, ou des patients, même à l'âge adulte, qui restent dans le plaisir et la joie de la vie, dans l'instantanéité. C'est très porteur et on trouvait que le nom était quand même source d'espoir et portait un joli regard sur le handicap.
Merci à Camille Stoven pour ces informations avant le départ de la 5e édition de l'Exaltante ce dimanche. C'est la fin de ce magazine du mercredi 11 juin sur le thème du sport et de la santé. Nous vous retrouvons mercredi prochain, toujours sur les ondes de Radio Campus Lille, pour un nouveau Villeneuve Mag, votre magazine qui traite de l'actualité de la ville de Villeneuve d'Ascq. Et on se quitte avec Orange Vine, un morceau de l'artiste Black Odyssey. Bonne fin de journée à vous.
Radio Campus Lille, il est 18h30.
Radio Campus, 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qui est, putain de merde?
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve.
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche du métier.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Cher monsieur,
La mésaventure qui va suivre vous est déjà arrivée.
Cette crise est en fait au départ un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est dans le mètre.
Là, on peut le mettre.
On connaît
pas tout de
gauche,
c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'est pas rien, puis dans une heure, on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis, tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
Ouais, la révolution, par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu fallais le tapis avec ton sang.
C'est quoi vous dire? Et révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans ses conceptions.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutus patrons,
je... Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est dans le mètre.
Là, dans le mètre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Hein, y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs, et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais je vais forcément toucher, je vais tomber en panne de poste. C'est du temps que vous ne prenez pas. C'est quand même curieux, non? 100 fois, j'ai dit, jamais, je vais en panne.
Aujourd'hui, mercredi 11 juin, c'est la sainte Rima Hassan. Hassan avec un ha 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 ha, comme dans ha ha Hamas. Ah ben, il n'y a pas de hasard, hein. Sainte Rima Hassan est donc bien la sainte patronne des apologistes du ha 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 ha, du ha 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 ha, du droit international, quoi. Quel culot! Mais quel culot! Déjà, Sainte Rima Hassan est palestinienne et réfugiée. Autant dire que pour les racistes de Tel Aviv, elle ne devrait même pas exister, si ce n'est sous la forme poétique exprimée par le porte-parole du Likoud en France de « petite pute antisémite ». Venant d'un gros port fasciste, cette caractérisation de Rima est un compliment à toute l'humanité. Quel culot! Eh oui, parce que par extension, Sainte Rima Hassan est donc également une Française de papier. Ah ben oui, ça se voit, hein. Comme le dirait le nain fasciste Zemmour, une Française de papier arabo-musulmane, c'est-à-dire, pour les adeptes du battleur fasciste Pascal Praud, une sous-humaine, une menace pour son identité à lui, une grand remplaçante incompatible avec la République de Atayo. Quel incroyable culot! Sainte Rima Hassan est également une élue de la France insoumise, à savoir une adepte du gourou islamo-gauchiste antisémite. Il n'est donc pas étonnant de l'entendre aboyer des insanités, comme par exemple « halte au génocide » ou encore « c'est un extrémisme impardonnable, respect du droit international ». Oh non, mais ça fait froid dans le dos, là, hein. Mais quel culot! Quel culot! Sainte Rima Hassan, en plus, est une femme. Ce qui fait dire aux bofs de CNews et des autres bistrots du même tonneau qu'elle traverse la Méditerranée pour parfaire son bronzage et faire la une de la presse people. En effet, une gonzesse peut-elle agir autrement qu'en vue de charmer par ses artifices? C'est du buzz! C'est du buzz, comme on dit dans les rangs des militants sérieux qui respectent les règlements des assemblées et qui construisent la gauche responsable dont la France a besoin. Et le sionisme aussi. C'est ainsi que, quel culot, l'apatride, l'enfant de la Nakba, la militante qui ne craint ni le Mossad ni la mort promise, la femme courage, survolant un océan de petites lâchetés, a été canonisée en ricanant lorsque la bave des crapauds tenta de briser ses ailes. Eh, faire demi-tour ? Et quoi encore ? Aujourd'hui, mercredi 11 juin 2025, le soleil s'est levé. Sur le quai, les cales gorgées d'amour et de chants de paix. On va se coucher, il va falloir tout débarquer, et ça sera long, ça sera lourd, tu sais. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus et sur campuslille.com. Ce soir, nous vous proposons le cinquième volet organisé par le Café Marxiste avec Antoine Patton autour de Marx et du Capital. C'est vraiment passionnant. Mais tout de suite, ou presque, avant en tout cas, la rubrique de Saïd Bouamama, Le Monde vu d'en bas, où il s'interroge sur les liens entre Trump et les Afrikaners d'Afrique du Sud. L'apartheid, ça vous rappelle quelque chose ? C'est d'actualité, c'est l'heure de le mettre.
J'en connais qui tournent en rond ou qui longent les murs en comptant les saisons. J'en ai vu des dépourvus, des nouveaux départs qui ne mènent nulle part. Des guerriers à la télé, des héros dans ma salle à manger. J'en ai lu des histoires vraies, mais la question que je me pose, sans cesse, où je pourrais trouver du courage. Que l'on porte au bout des doigts de la force et l'espoir d'aller chercher plus loin en n'ayant peur de rien, de sonner à la porte de l'inconnu sans aucune retenue. En parler, c'est si léger, mais la question que je me pose, sans cesse, où je pourrais trouver du courage. Que les bras m'en tombent comme le petit poussé des cailloux, j'en ai trouvé. Mais la question que je me pose, sans cesse, où je pourrais trouver du courage.
Radio Campus.
Notre spécialité, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion.
106,6.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée aux accusations farfelues proférées par Donald Trump contre l'Afrique du Sud et à leurs objectifs politiques. Lors d'une rencontre entre le président sud-africain Cyril Ramaphosa et Donald Trump le 21 mai, le président états-unien a accusé l'Afrique du Sud de commettre un véritable génocide contre les fermiers blancs. Devant la presse, il présente des vidéos censées prouver l'existence de ce génocide. Quelques mois auparavant, le 7 février, il signait un décret pour faciliter l'asile des réfugiés afrikaners fuyant ce pseudo-génocide. Lors de l'accueil d'un premier groupe de 49 pseudo-réfugiés le 12 mai, Trump déclare lors d'une conférence de presse, je cite, « C'est un génocide dont vous ne voulez pas parler, mais il se passe quelque chose de terrible. Des agriculteurs sont tués et les journaux, les médias et la télévision n'en parlent même pas. Si c'est l'inverse, ils en parlent. C'est même la seule chose dont ils parlent. Je me fous de savoir qui ils sont. Je sais juste que des gens en Afrique du Sud me disent que ce qui se passe est terrible. Nous avons donc donné la citoyenneté à ces personnes pour échapper à cette violence et venir ici. » Fin de citation. L'accusation de génocide blanc a débuté début février 2025, juste après l'adoption, le 23 janvier par l'Afrique du Sud, d'une nouvelle loi agraire visant, je cite, à exproprier des terres dans l'intérêt public pour diverses raisons, visant entre autres à promouvoir l'inclusivité et l'accès aux ressources naturelles. Fin de citation. Pour comprendre l'importance de cette loi, qui a beaucoup trop tardé, il convient de rappeler quelques données que Donald Trump se garde bien de rappeler. Ainsi, seulement 4% des terres cultivables appartiennent à des Sud-Africains noirs, alors que ceux-ci représentent 81% de la population. À l'inverse, les 36 000 fermiers blancs, qui ne représentent que 7% de la population, possèdent 72% des terres. On comprend dès lors l'urgence d'une redistribution des terres qui n'a que trop tardé depuis la fin de l'apartheid. Occultant ce contexte, Elon Musk déclarait en réaction à la nouvelle loi agraire, je cite, « Pourquoi vos lois sur la propriété sont-elles ouvertement racistes ? Les Sud-Africains blancs sont persécutés en raison de leur race dans leur propre pays. » Fin de citation. En outre, la nouvelle loi agraire n'affiche que des objectifs très modestes et bien inférieurs à une logique égalitaire. Elle ne vise principalement que des terres abandonnées ou en friche et prévoit une indemnisation au prix du marché. Comme on le constate, nous sommes loin de l'objectif de Mandela lors de son accession au pouvoir en 1994, prévoyant la restitution de 30% des terres sud-africaines à leurs anciens propriétaires avant 2014. Ces terres, aujourd'hui propriétés de fermiers blancs, sont en effet le résultat d'une expropriation légale des petits propriétaires noirs. Une loi sur les terres de 1913 interdisait en effet aux noirs d'acheter ou de louer des terres dans les zones dites blanches. L'effet immédiat fut l'expulsion forcée et violente des petits propriétaires noirs. La nouvelle loi, jugée génocidaire par Trump, ne fait que reprendre cet objectif de 30% des terres pour l'horizon 2030. Si l'apartheid a effectivement été aboli en 1994, ses effets structurels en termes d'inégalité économique sont encore bien présents sur le plan de la répartition des richesses et de la propriété. La rhétorique de Donald Trump est connue. Elle est un des outils classiques de tous les processus de domination. Elle consiste, pour le dominant, à retourner l'accusation qui lui est faite et à accuser à son tour le dominé de la même infamie. Elle a été utilisée dans le passé contre les militants et mouvements anti-esclavagistes, anti-coloniaux, anti-racistes, anti-capitalistes, etc. Frantz Fanon, Lumumba, Mandela et des dizaines d'autres combattants de l'égalité ont été dans le passé accusés d'être des racistes anti-blancs. Aujourd'hui, c'est le pays qui a saisi la justice internationale pour enfin caractériser justement le génocide sioniste à Gaza qui est à son tour accusé de génocide. L'action juridique de l'Afrique du Sud contre les génocides sionistes a produit des effets importants, même si l'état actuel du rapport de force mondial, en particulier au sein des institutions internationales, ne permet pas que la plainte sud-africaine ne débouche sur le moindre résultat. Les effets se situent ailleurs. Ils consistent en la libération de la parole, en la disparition d'un tabou, en l'éclatement du carcan idéologique de la propagande sioniste, empêchant jusqu'alors de désigner le sionisme pour ce qu'il est, un régime génocidaire. La plainte de l'Afrique du Sud signe de fait une défaite morale du sionisme pour la première fois depuis 1948. Or, faut-il encore le rappeler, toutes les guerres de libération nationale ont été victorieuses qu'après une défaite morale de l'oppresseur. C'est sur cette défaite morale que tente de revenir Trump par des accusations farfelues. Comme d'habitude, il accompagne ces accusations ubuesques de pression et de sanctions. Sur le plan des sanctions, il suspend totalement l'aide états-unienne à l'Afrique du Sud, qui s'évaluait à 440 millions de dollars en 2023, essentiellement fléchée vers le secteur de la santé et plus particulièrement en direction des personnes victimes du sida. Sur les plans des menaces, il expulse en mars dernier l'ambassadeur sud-africain en ne lui laissant que 72 heures pour quitter les États-Unis et en l'accusant, je cite, d'être un homme politique raciste qui déteste l'Amérique, fin de citation. L'objectif de l'ensemble de cette campagne est de contraindre l'Afrique du Sud à faire profil bas sur le plan international. Que ce soit au niveau des équilibres mondiaux avec son implication totale dans la dynamique multipolaire des BRICS, sur le plan africain avec son refus des ingérences étrangères et son appel à un règlement africain des problèmes africains, ou son soutien à la lutte du peuple sahraoui, sur la question palestinienne et sa dénonciation exemplaire du génocide sioniste, l'Afrique du Sud est sur tous ses fronts diamétralement opposée à l'hégémonisme états-unien. Enfin, n'oublions pas que la Chine est considérée par Washington comme un danger stratégique à contenir et à affaiblir, et celle-ci est le premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud. Selon les données publiées par le South African Revenue Service, la Chine représentait 11,6% des exportations sud-africaines et 23,1% des importations en avril 2024. De même que le discours sur la paix en Ukraine de Donald Trump portait en objectif caché l'espoir de distendre l'alliance entre la Chine et la Russie, les accusations et sanctions contre l'Afrique du Sud sont sous-tendues par un objectif d'éloigner l'Afrique du Sud de la dynamique des BRICS et plus largement de distendre ses liens avec Pékin. Loin d'être un individu rationnel, comme le présentent de nombreux médias, Donald Trump poursuit, on le voit, une stratégie cohérente de défense par tous les moyens possibles des intérêts de l'hégémonisme états-unien.
La lingua più diffusa da Roma a Milano, il principale prodotto d'esportazione italiano. Noi non emigriamo, Napoli.
napulitane. So più di 150 anni che colonizziamo, non emigriamo. Napulitane, da più di 150 anni ci ricollochiamo. Napoli, 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 coi colori, gli ori e i dolori. Napoli, con l'orgoglio, raggia, prepotenza e Napoli. A tuo coglio, coglio, figlio sempre Napoli. Napoli, 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 Napoli ti cade dentro. Trasformare tutto il mondo in una grande Napoli. Napoli, 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 Napoli.
So giamaicana, africana, sono nata a Milano.
Il principale prodotto d'esportazione italiano.
So giamaicana, africana, sono nata a Milano.
So napulitana.
So giamaicana, africana, sono nata a Milano.
Il più diffuso prodotto d'esportazione italiano.
So giamaicana, africana, sono nata a Milano.
Radio Campus.
J'ai compris. Vous pouvez compter sur moi, j'ai compris.
Oui, oui.
Comment ça, j'ai pas compris? Ah oui, c'est ça. Ah oui, j'avais pas compris.
106,6.
Bonjour à tous. Alors, on retrouve Antoine Vatan, notre économiste en chef.
Chief économiste.
Pour ce dernier épisode de notre série sur le capital de Marx. Et aujourd'hui, donc, on va s'intéresser aux autres théories économiques. Et notamment donc aux penseurs classiques, néoclassiques et aux keynésiens.
Oui.
Donc première question, qu'est-ce qui caractérise les penseurs classiques? Donc on avait parlé de Smith, Ricardo, mais il y a aussi Malthus, Say ou Mill. Et quelle différence avec Marx?
Bien. Il a fait des points communs et des différences. Je ne vais pas dire que c'est la dissertation tarte à la crème de licence. Marx est-il le dernier des classiques? Mais presque. Il y a à la fois des côtés progressistes qu'il faut retenir, puis des côtés franchement réactionnaires chez les penseurs classiques. Le côté, j'allais dire, progressiste, ou en tout cas qui fera héritage, et qui maintenant s'est diffusé, c'est que dans l'explication que les hommes ont d'eux-mêmes, j'allais dire dans l'anthropologie au sens large, c'est-à-dire l'homme qui s'étudie lui-même, c'est-à-dire pas l'homme qui étudie la nature, mais l'homme qui s'étudie lui-même, ils vont quand même mettre au centre les rapports économiques. Ce qui est globalement inédit. Hein, d'ailleurs, toute histoire de la pensée économique commence. Alors, il y a vaguement la crématistique, quoi. Mais après, bon, on enjambe le Moyen Âge et puis on arrive tout de suite aux penseurs classiques, en commençant par notamment souvent la fable des abeilles. Mais bon, ça, quand même, c'est quand même à mettre à leur crédit. C'est-à-dire que c'est un côté révolutionnaire, encore une fois, qui accompagne la bourgeoisie, hein, parce que la bourgeoisie prend le pouvoir économique. Donc, à un moment donné, elle doit aussi justifier le fait qu'elle fasse la révolution. Et ils mettent les rapports économiques au centre, j'allais dire, de l'analyse des sociétés. Donc évidemment, ça, Marx reprendra ça. La dernière fois, j'ai dit, Marx ne les nie pas directement, il les développe, il pousse jusqu'au bout, il pousse les curseurs. Alors souvent, ça peut être mal compris, dans le sens où, en fait, ils n'ont pas été très loin dans l'analyse, et puis, en fait, Marx a juste complété la théorie. En fait, non, parce que en poussant les curseurs jusqu'au bout, en fait, il va montrer les contradictions de cette pensée et il va finir par les dépasser en les niant, finalement. Okay, donc ça va, mais c'est pas comme un gauchiste qui viendrait en disant le capitalisme, c'est pas bien, il faut penser un autre mode de production. Donc j'écris dans ma chambre d'ado un mode de production alternatif, ce qui existe aussi dans la pensée économique, hein, y compris d'ailleurs à cette époque-là, bien avant Marx, il y a des penseurs du socialisme utopique, comme on l'appellera après. Et d'ailleurs, souvent, en tant que marxiste, on critique ça maintenant au XXIe siècle, mais quand on lit Engels, il est assez laudateur hein, des socialistes utopiques, notamment parce qu'il arrive à extraire, j'allais dire en fait, presque fortuitement, une analyse du capitalisme chez certains auteurs. Bon, passons, c'est pas le sujet. Mais disons que donc Marx va reprendre prima facie certains aspects de cette analyse, mais pour les développer et finir par les nier. Donc par exemple, chez les penseurs classiques, il y a une théorie de la valeur travail, mais substantialiste. C'est-à-dire que c'est, pour le coup, la valeur de ce stylo, c'est la quantité de travail incluse dans ce stylo. Et donc, si on prend cet exemple et qu'on veut y aller à gros traits, Marx va dire deux choses qui ne font pas que compléter, mais qui encore une fois dépassent et nient. Premièrement, ils vont dire, attention, c'est pas la substance travail qu'il y a dedans, c'est le travail abstrait, comme on l'a défini la dernière fois. C'est-à-dire que c'est pas le travail tout court. Parce que du travail tout court, il y en a depuis que l'homme est homme. Hein. Il y a rame, chasseur-cueilleur, c'est du travail. L'esclavagisme, c'est du travail, n'est-ce pas ? Mais c'est pas le travail abstrait au sens de la production capitaliste. Donc déjà, Marx va préciser ça. Mais ce faisant, en fait, il nie la pensée classique, puisque dès l'instant que je dis c'est la quantité de travail tout court qui compte, alors je suis en train de dire, bah, finalement, il n'y a pas tellement d'histoire. Puisque si c'est le travail tout court, du travail tout court, il y en a toujours eu. Et donc finalement, je deviens réactionnaire quand je dis ça, parce que c'est curieux d'ailleurs, c'est au moment où je prends le pouvoir, en tant que bourgeoisie, que j'arrête l'histoire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que là, c'est ça la valeur travail, donc la valeur travail, en fait, elle a toujours existé, en fait, même si on ne le savait pas, finalement, je caricature un peu, là, mais enfin, globalement, c'est ça. De tout temps l'homme, et donc, finalement, les rapports sociaux tels qu'ils sont des rapports sociaux naturels, etc. Et donc Marx veut dire pas du tout. Les rapports sociaux qu'il y a aujourd'hui, quand j'analyse la marchandise, sont des rapports sociaux historiques, qui ont une date de naissance, qui ont un développement, qui ont une date de fin. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est aussi ce qu'on a dit la dernière fois, c'est-à-dire que c'est ce qui compte, c'est la valeur moyenne. Donc c'est pas la valeur incluse dans ce stylo, c'est la valeur moyenne. Par exemple, la valeur du magnétoscope qui a été produit dans les années 80, je crois qu'on avait pris cet exemple la dernière fois. Bah, aujourd'hui, la valeur du magnétoscope, c'est pas la quantité de travail qu'il y a dans le magnétoscope. C'est la valeur total de la valeur moyenne qu'il faut pour produire la capacité pour un être humain de regarder un film, par exemple. Okay. Donc ça veut dire que je vais inclure la valeur dans l'histoire, à la fois comme mode de production, c'est-à-dire comme rapport social du travail, mais aussi comme développement des forces productives. C'est-à-dire que ma valeur ne vaut que par rapport à un certain stade des forces productives. Les deux étant liés. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'allais dire ? Dans les sciences sociales, en général, on fait une distinction entre nature et culture. Bon, encore une fois, on commence par classer les choses. Mais après, si on est vraiment marxiste, on comprend que finalement, la culture qui va nier la nature n'est qu'un développement historique de la nature. Bon, si on lit André Leroy Gourhan, par exemple, l'homme est homme parce qu'il y a une main autonome, la bipédie et un redressement de la face, et un raccourcissement de la face, quoi, hein, ce qui va permettre de développer le cerveau, etc., donc de développer une pensée. Bref, et donc chez Marx c'est pareil, il y a certes d'un côté les rapports sociaux et certes de l'autre côté le développement des forces productives, mais les deux finalement sont imbriqués. Souvent on nous accuse d'être mécaniste parce que en première approximation on dit le développement des forces productives à un certain stade produit certains rapports sociaux, mais il y a aussi le fait que certains rapports sociaux produisent, et parfois les deux entrent en contradiction, et c'est à ce moment-là qu'on entre dans une phase révolutionnaire. Ou très réactionnaire d'ailleurs, hein, puisque finalement il y a ceux qui disent le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, il est dévoyé, mais en fait c'est juste que le capitalisme il entre dans des contradictions telles que il y a des choses qui apparaissent qui n'étaient pas le cas avant. Bon, là je vais un petit peu loin pour critiquer par rapport au classique, mais enfin, non, mais ça permet aussi de dire comment après on va analyser le capitalisme, y compris contre les pensées qui sont encore aujourd'hui existantes et réactionnaires, qui en fait vont toujours finir par regretter le capitalisme d'avant, quoi, en fait. Hein. Mais ça vient du fait que quand on fait ça, en fait, on a une pensée fixiste, c'est-à-dire qu'on pense que le capitalisme, il est comme ça, et finalement, il a presque de tout temps été, et que quand le capitalisme ne va pas bien, donc autrement dit, quand il rentre en crise, hein, pour le dire prosaïquement, en fait, c'est parce qu'on l'a dévoyé, quoi, sans jamais comprendre que c'est le développement normal du capitalisme. Donc Marx, il va reprendre, j'allais dire, à son compte certaines prémices de la pensée classique, notamment quand même ce qui fera héritage, et encore aujourd'hui, c'est le fait que les rapports sociaux sont prédéterminés majoritairement par des rapports économiques. Ce qui d'ailleurs, à mon avis, est un des héritages assez révolutionnaires du capitalisme contre lui-même. Parce que aujourd'hui, bon, même dans les bistrots, en fait, hein, même, je sais pas, dans la pensée quotidienne, tout le monde, même si c'est d'un point de vue épars, et même si c'est pas précis, bon, globalement, tout le monde dira une phrase du style « De toute façon, c'est l'argent qui gouverne le monde », n'est-ce pas ? Bon, c'est une phrase très naïve, hein, n'est-ce pas ? Mais enfin, aujourd'hui, c'est une phrase qui est partagée par à peu près tout le monde, plus personne ne croit en Dieu, plus personne... Et en fait, quand on dit ça, ben, on est en train de dire que, de prime abord, ce qui va expliquer la configuration du monde, ce sont les rapports socio-économiques. Bon, évidemment, ils ne le disent pas aussi précisément, pas avec une conscience de classe, pas, etc. Mais enfin, quand même, c'est le premier pied à étrier, quoi. Et donc, il y a quand même cet héritage. Mais cet héritage va être dépassé et nié.
Et plus précisément, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le malthusianisme ? Parce qu'en fait, c'est un courant qui revient beaucoup dans l'écologisme. Enfin, pas dans l'écologie dans le sens de nos rapports avec la nature et comment on garde des conditions de vie correctes sur Terre, mais dans le malthusianisme.